Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 4 juin. La polémique sur les PFAS et trois collectifs qui saisissent le tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté encadrant l'exploitation d'une nouvelle unité de Dekin à Pierre-Bénite. France Victime 69 en grève ce mardi. On apprend la démission d'Éric Carpano, le président de l'université Lyon 3. La métropole de Lyon avait lancé une offre découverte mobilité au mois d'avril. Explications et bilan dans cette édition. Le quartier des Girondins poursuit sa mutation. Une fresque artistique située place Antoinette Fouque est en cours de réalisation. Nous avons rencontré l'artiste Yannick Martin, alias Studio Watt. Le château d'eau de Rieux-la-Pape abrite un couple de faucons pèlerins avec 4 bébés. L'Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval va ouvrir ses portes au public pendant 2 jours. Et puis on en sait plus également sur le passage de la flamme olympique à Neuville-sur-Saône.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La polémique sur les PFAS, bien vivre à Pierre-Bénite est notre affaire à tous. Soutenue par PFAS contre terre, on saisit le tribunal administratif. Les trois collectifs veulent que l'arrêté encadrant l'exploitation d'une nouvelle unité de Dekin soit annulé en vertu du principe de précaution. Un arrêté qu'ils jugent en décalage complet avec la prise de conscience nationale, illustrée par la loi validée par le Sénat le 30 mai dernier. La commune de Pierre-Bénite était signataire du permis de construire en 2021, un an après les premières révélations sur les rejets de PFAS d'Arkema et Dekin par le journal Libération. France Victime 69 en grève ce mardi. L'association a l'habitude de fournir une assistance efficace et humaine aux victimes d'infractions pénales dans un contexte où les besoins augmentent. Depuis 45 ans, avec un réseau de plus d'une centaine de partenaires, l'association permet un accompagnement gratuit et global à toutes les victimes, allant de l'aide juridique à l'aide psychologique ou sociale. Mais elle dénonce aujourd'hui une situation critique. L'association réclame des moyens humains et financiers, la pérennité des actions pour garantir la durabilité des interventions et des soutiens apportés aux victimes. Elle réclame aussi l'accompagnement des victimes, quoi qu'il en coûte, pour répondre aux exigences croissantes en renforçant les dispositifs. Éric Carpano, président de l'université Lyon 3, annonce sa démission pour des raisons personnelles. Éric Carpano avait pris ses fonctions en 2020. Gilles Bonnet, premier vice-président et président du conseil administratif, assure la présidence par intérim. Les élections du nouveau président par le conseil d'administration auront lieu dans les prochaines semaines. Éric Carpano a toujours maintenu son opposition au projet de fusion des universités de Lyon et Saint-Étienne. Un président engagé en 2023, il dénonçait le vote de la loi immigration en affirmant qu'elle adresse aux étudiants étrangers le message qu'ils ne sont plus les bienvenus chez nous. L'écologie a aussi été une de ses priorités. Il voulait former tous les étudiants aux enjeux environnementaux avec la création d'ici 5 ans d'une école de la transition écologique. La métropole de Lyon avait lancé en avril une offre découverte mobilité. Elle permettait de découvrir gratuitement le réseau de transport en commun lyonnais, l'offre Vélov ou encore les voitures en libre-service Cities, et ce pendant 3 mois. En 6 semaines, près de 10 000 personnes ont déposé une demande pour en profiter. 4 500 utilisent leur voiture comme principal mode de déplacement, indique la métropole, pour qui cet engouement démontre la volonté des grands lyonnais et des grandes lyonnaises de découvrir des mobilités alternatives à la voiture individuelle. L'offre est désormais close pour l'année 2024, compte tenu du budget qui avait été alloué à cette opération. Une seconde offre découverte, en revanche, était mise en place par la métropole de Lyon. Elle est destinée aux grands lyonnais prêts à se débarrasser de leur voiture, ouverte aux personnes qui habitent dans le périmètre de la ZFE. Cette offre permet de bénéficier d'un accès gratuit ou à un prix préférentiel aux 4 services TCL, Vélov, autopartage et covoiturage, et cependant 1 an. Il faut toutefois là s'engager de manière formelle à la mise au rebut ou à la cession dans le cadre d'un véhicule critère 2 de son véhicule personnel.
Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Le quartier des Girondins poursuit sa mutation. L'ancien quartier industriel est en perpétuelle reconstruction et présente de nombreuses palissades de chantier, au mieux tristounettes, parfois taguées. La Serle, qui est l'aménageur du quartier, a décidé de confier l'une de ces palissades à un artiste de street art pour offrir des couleurs aux habitants du quartier. Une fresque artistique située place Antoinette Fouque est confiée à l'artiste Yannick Martin, alias Studio Watt, du collectif lyonnais AK Studio. Nous l'avons rencontré.
Donc moi je suis architecte de formation, j'ai étudié architecture, j'ai été diplômé d'architecture, j'ai travaillé entre Marseille et Londres comme architecte. J'ai toujours fait du graphisme en parallèle, de l'art aussi, mais j'ai quand même suivi pendant 5 ans mon frère pour faire du cinéma. Donc j'ai été réalisateur pendant 5 ans. sur des courts, moyens métrages, clips vidéo. Le dernier ayant été un clip pour Brigitte Fontaine et Philippe Catherine, filmé en Inde. Un chouette projet. Et après ces 5 ans, j'ai eu envie de revenir vers l'art et le graphisme, donc j'ai créé Studio Watt. J'ai été graphiste pendant 5 ans et j'ai travaillé pour des projets avec la Fondation Le Corbusier, l'UNESCO, etc. En poursuivant toujours mes envies artistiques. Et puis le Covid est arrivé il y a 5 ans. Et donc j'ai estimé que c'était pas le meilleur moment pour relancer certains clients et j'ai accordé plus de temps à mon activité artistique. Donc j'ai commencé à sortir mon travail que je faisais essentiellement sur ordinateur et j'ai posé mes premières fresques, mes premières décorations murales qui ont fait boule de neige. Un projet en a entraîné un autre et puis voilà, aujourd'hui je fais l'art à plein temps. Mes principales réalisations sont plutôt dans le sud de la France, entre Saint-Raphaël, Viltrolles, Marseille. Là aujourd'hui je suis à Lyon, il y a 2 ans j'ai eu la chance d'aller à Sofia en Bulgarie aussi. Donc je commence à pouvoir, de par ma pratique, sortir de cette zone sud.
Mmh. Chaque ville a sa culture de street art ou pas ?
Je pense que oui, chaque ville a sa culture du street art. Je ne peux pas dire à quel point elle est différente d'une ville à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que les villes étant elles-mêmes différentes, elles inspirent les artistes. Je vois des artistes du street art italien qui font un travail où on sent qu'il peut y avoir de l'Italie derrière, même si c'est très abstrait. Et puis quand on compare avec les artistes américains ou hollandais, évidemment, on peut retrouver aussi des choses. Mais pour autant, je pense que la différence au niveau street art se fait surtout dans la personne, que ce soit une approche féministe, abstraite, illustrée, ou post-moderne, on dit, de manière très, très sale, abîmée. Et ça, je pense que bon, ça peut exister un peu quel que soit l'endroit.
En ce moment, tu es à Gerland, pourquoi ?
Donc, en ce moment, je suis à Lyon parce que AK Studio, qui me représente, m'a invité via le client La Serle pour faire une fresque sur une palissade de 90 mètres de long. Voilà, une palissade qui délimite le terrain qu'ils ont et sur lequel ils ont un projet.
Alors comment tu travailles sur cette palissade ? Raconte-nous un petit peu la genèse du projet.
Bon, comment je travaille sur une palissade ? Déjà, je fais un relevé. Je viens de l'architecture, donc bon, je fais un relevé, j'ai les dimensions, j'ai la longueur et les points techniques qui me permet de dessiner sur ordinateur. Je prends des photos aussi, donc je travaille après en 3 dimensions pour voir un peu comment on perçoit, quel va être le rapport qu'on peut avoir avec la future décoration. Et puis ensuite j'arrive sur place, j'ai commandé les matériaux évidemment, et puis je travaille avec du scotch, donc je pose du scotch pour délimiter des zones et je les remplis. Les zones, c'est des pictogrammes, c'est des signes, des symboles, des choses abstraites ou énigmatiques, et puis je viens peindre de part et d'autre du scotch pour révéler ces symboles.
Comment elle se lit cette fresque sur 90 mètres ?
Elle a plusieurs lectures parce que elle fait partie d'un grand boulevard, donc on peut arriver de part et d'autre de ce boulevard, mais il y a aussi des perceptions qui sont chouettes, c'est-à-dire qu'on voit des reflets avec les magasins qui sont en face, il y a des bureaux qui ont aussi des vues sur cette palissade. Puis après, elle peut se prendre par section, parce que la palissade a une structure qui fait que à peu près 35 zones sont délimitées, et donc on peut s'arrêter devant chacune de ces formes pour essayer d'interagir avec, de les comprendre ou de...
Ouais. Comment on l'interprète ? Il y a quelque chose à lire ou chacun l'interprète à sa façon ?
Chacun interprète à sa façon. Évidemment qu'il y a des portes d'entrée avec des symboles qui sont plus facilement reconnaissables, malgré le fait qu'ils soient déconstruits pour tendre vers d'autres abstractions, mais il y a des formes qui sont complètement abstraites, qui viennent de mon imaginaire ou de recherche graphique et qui rebutent un petit peu, je pense, mais qui du coup invitent à imaginer ce qu'on souhaite.
Des palissades, il y en a beaucoup, toutes sont exploitables, celles en face là par exemple.
Je pense que oui, elles sont toutes exploitables, pas toutes aussi facilement. C'est pas simple, hein, c'est des lames de bois qui sont séparées les unes des autres. Il y a une structure en tasseau avec une partie métallique au milieu, donc ça aide pas forcément à faire des grands emplats ou des grandes choses techniques à la bombe. Mais je pense que oui, enfin, ça fait partie de la contrainte fait aussi le projet, donc cette contrainte-là aide à dessiner un projet qui permettrait d'être réalisé sur cette structure.
Sur ce genre de palissade, on voit plutôt des graphes, hein, des choses un petit peu sauvages. Est-ce que tu es à l'abri de ce genre d'acte ou est-ce que c'est bienvenu ? Comment tu vois ça ?
Je suis absolument pas à l'abri de ce genre d'acte et j'ai envie d'accepter ça parce que la ville appartient à tout le monde, donc ma fresque sera clairement réappropriée par d'autres personnes, peut-être de manière élégante, mais peut-être de manière un peu plus sauvage. Et c'est comme ça, il y a un temps de vie pour chaque chose, cette fresque-là va aussi être réappropriée et c'est le jeu et c'est normal.
Il y a des ateliers participatifs aussi qui sont prévus, je crois. C'est quoi l'esprit d'un atelier participatif autour du street art?
Oui, il y a des ateliers participatifs qui sont prévus. L'objectif, c'est quoi? C'est d'inviter les gens, que ce soit des gens qui habitent dans ce quartier-là, à s'approprier la fresque, qui vont découvrir tous les jours, puis leur faire découvrir aussi la peinture, le procédé avec lequel je travaille éventuellement, parce que tout le monde ne travaille pas avec ce système de pochoir avec le scotch. Donc il y a plusieurs ficelles vis-à-vis d'inviter les gens à participer.
Comment se porte aujourd'hui le street art en France, à Lyon, à Marseille, dans ta ville?
Globalement, il se porte bien parce qu'il y a énormément de commandes depuis une trentaine d'années. Tout le monde veut avoir des peintures dans sa ville. C'est une chose plutôt chouette, ça se porte bien. Et puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont envie de réagir contre ça et envie de faire des projets hors commission. Donc les deux viennent se confronter, ce qui fait que les fresques ont une durée de vie, ce qui fait que les discours sont différents aussi. Voilà, il y a beaucoup d'intérêt vis-à-vis de sortir de l'art de la galerie et de s'exprimer, soit par une commande, soit par une intention qui est sienne.
Notez qu'un atelier participatif gratuit et ouvert à tous est organisé ce mercredi 5 juin à 14h pour donner la possibilité aux habitants du quartier de venir participer à la réalisation de l'œuvre. Une fresque appelée à rester visible tout au long du chantier de construction. Pour participer à cet atelier, il faut adresser un mail à écrire.astudio@gmail.com. Le château d'eau de Rieux-la-Pape, construit dans les années 60 et qui a fière allure sur le plateau nord de Lyon, est désormais habité. Découvert l'année dernière par la Ligue de protection des oiseaux, un couple de faucons pèlerins semble s'y trouver à merveille. Le couple de rapaces a aujourd'hui 4 bébés. Ces oiseaux apprécient particulièrement les endroits en hauteur et les nids se trouvent généralement à une cinquantaine de mètres du sol. Ça tombe bien, le château d'eau de Rieux-la-Pape mesure quelques 56 mètres et surplombe toute la ville, visible de toute l'agglomération. Comme toute les espèces de rapaces, le faucon pèlerin est une espèce protégée en France. On dénombre 8 à 9 couples dans le Rhône et la métropole. On en trouve notamment dans le quartier de la Part-Dieu, sur la tour Silex, mais aussi à Fourvière, Vaise, Chassieux ou encore à Fézin. L'Observatoire de Lyon, situé à Saint-Genis-Laval, va ouvrir ses portes au public pendant 2 jours, les 14 et 15 juin prochains. L'événement a pour thématique le retour aux origines. Les visiteurs pourront participer à diverses activités et ateliers. Des expositions et des conférences animées par des astrophysiciens et géologues permettront également de mieux appréhender l'univers. Les visiteurs pourront découvrir différents instruments d'observation, dont un télescope d'un mètre pour admirer les étoiles. Entrée libre et gratuite de 18h à 1h du matin le vendredi 14 juin et de 10h à 1h du matin le samedi. On en sait davantage sur le passage de la flamme olympique à Neuville-sur-Saône. Ce sera le 21 juin. Son parcours débutera devant l'hôtel de ville neuvillois à 13h15 pour se terminer sur le site de Sanofi. Le groupe est partenaire des Jeux Olympiques à Paris 2024 et des relais de la flamme. Les 10 porteurs qui se relaieront seront tous des salariés du géant pharmaceutique. Les 7 premiers seront sur la voie publique, notamment dans le parc d'Ombreval, puis par l'avenue Jean-Christophe et sur le quai Armand Barbès. Et les 3 derniers évolueront à l'intérieur de Sanofi, où il y aura un événement tourné vers les collaborateurs. La flamme olympique entrera sur le site de Sanofi vers 14h. C'est le seul passage dans le Rhône et l'Ain. Il est préférable de venir en bus ou en train. Le centre de Neuville sera en effet bouclé à la circulation dès le matin. Les parkings seront neutralisés. Le pont lui restera ouvert. Sur la Saône, de nombreux bateaux à voile emmenés par le Yacht Club du Rhône accompagneront la flamme sur tout le parcours. La commune organisera également un village olympique avec de nombreuses animations et démonstrations sportives jusqu'au soir. Le capitaine et buteur de l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette, dont l'avenir à Lyon reste incertain à un an de la fin de son contrat, figure dans la première liste annoncée par le sélectionneur Thierry Henry pour le tournoi olympique du 24 juillet au NoFoot. En revanche, Ryan Cherki n'est pas retenu. Une préliste de 25 joueurs a été annoncée hier par Thierry Henry pour le tournoi olympique. Il a tenu à préciser que cette liste sera appelée à évoluer d'ici au 3 juillet, date butoir, avec la liste définitive de 18 joueurs plus 4 réservistes. Des clubs peuvent en effet refuser de libérer des joueurs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.